Force Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous. Le bail en HLM est-il un bail à vie? Le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, annonce en tout cas vouloir sortir les locataires qui ont largement déplacé le plafond de revenus. 8% des locataires, selon lui. C'est déjà prévu par la loi, lui répond notamment l'ancienne ministre Emmanuelle Cosse. Est-ce une solution en tout cas pour désengorger ce secteur en tension? Comment booster aussi les nouvelles constructions? Au menu également, des informés ce soir, le MeToo des armées. C'est à l'agresseur de sortir du rang. Toute victime doit être écoutée et protégée, écrit Sébastien Lecornu dans une tribune au Monde. Il annonce une mission d'information et réclame la tolérance zéro. Quelle est l'ampleur du phénomène dans l'armée? On posera ces questions à l'expert militaire Pierre de Jong, qui restera d'ailleurs avec nous pour notre troisième sujet du jour, la menace iranienne sur Israël. La France recommande de ne plus se rendre dans plusieurs pays de la région. On parle de tout ça avec nos informés ce soir. Marie-Estelle Pech, rédactrice en chef Société à Marianne, Arnaud Bouillin, rédacteur en chef du pôle L'économie à L'Express, et Véronique Reissoult, comme chaque vendredi, présidente de Backbone Consulting, maître de conférence en communication de crise à Sciences Po. Bonsoir et bienvenue à tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
8% des locataires de l'HLM n'auraient donc rien à y faire parce que leurs revenus sont trop élevé. C'est le ministre délégué au logement, Guillaume Kasbarian, qui avance ce chiffre ce matin dans le journal Les Échos et qui souhaite que les bailleurs examinent régulièrement la situation financière de leurs locataires. Il dit vouloir mettre fin au logement social à vie, un concept qui fait hurler l'ancienne ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, qui préside aujourd'hui l'Union sociale pour l'habitat, une association représentative du secteur HLM. Et pour elle, la loi prévoit déjà de vérifier les revenus tous les ans. Écoutez.
Le ministre parle d'un bail à vie qui n'existe pas. Donc aujourd'hui, l'ensemble des locataires HLM doivent déclarer leurs revenus tous les ans. Au-delà d'un certain seuil, ils ne pourront plus rester dans le logement social. Il y a tous les gens, des gens qui en partent. Aujourd'hui, il y a 3% des ménages locataires qui peuvent être assujettis à ce qu'on appelle un complément de loyer, le surloyer, parce que les revenus dépasseraient d'un pourcentage de ce qui est demandé, en sachant que dans beaucoup de territoires, notamment au nom de la mixité sociale, l'État a demandé à ce que ça ne soit pas appliqué. Et ces personnes-là ont le droit de rester dans le logement HLM. On utilise cette expression « logement social à vie » pour faire polémique, alors que le gros sujet aujourd'hui, c'est qu'on ne construit pas assez de logements sociaux, qu'on n'a jamais eu autant de demandeurs et que la construction est en crise.
Arnaud Bouillin, en clair, le ministre annonce une mesure qui existe déjà.
Bah, c'est une vieille idée parce que là.
Et il le sait.
Il le sait, la recette existe déjà et depuis fort longtemps, comme l'a rappelé Emmanuelle Cosse. Depuis une loi de 2009, les locataires de HLM doivent répondre chaque année à une enquête ressources menée par les bailleurs sociaux pour connaître leur situation économique.
Ils le font.
Ils le font. Et
globalement, c'est...
Ils le font et le bailleur peut, au vu des réponses qui sont données, majorer le bail en réclamant un surloyer. Ou bien, si les revenus du locataire sont supérieurs de 150%, deux années de suite au plafond, l'expulser. Alors évidemment, il y a des exceptions, les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes handicapées, et puis...
ces gens-là, on ne peut plus les
absolument.
Sortir après 65 ans.
De même que les locataires dans les quartiers populaires de la ville. Donc ce système de contrôle et de plafond, de barème, il existe déjà. Après, est-ce qu'il est efficace? Est-ce que les bailleurs sociaux appliquent la loi, font partir tous les locataires qui ne sont plus éligibles? Le gouvernement pense qu'on peut faire mieux, mais le problème, me semble-t-il, est un peu ailleurs.
C'est-à-dire ?
Dans la construction.
Oui.
Depuis 2020, on construit moins de 100 000 logements sociaux par an. Il en faudrait 20 à 30 % de plus. Et malheureusement, ce volume de construction va encore baisser dans les années qui viennent.
On va y revenir, mais Marie-Estelle Pech, votre sentiment sur cette façon d'annoncer une mesure qui, disons-le, existe déjà ?
Oui, moi ce qui m'étonne surtout, c'est que ce chiffre-là qu'il sort, hein, de 8% de personnes qui occuperaient un logement HLM, alors qu'ils ont, en gros, ça signifie que leurs revenus sont supérieurs de 30% à ce qu'ils devraient être pour rester dans ces HLM. Mmh. Voilà. C'est un chiffre qui existait déjà en 2010, 2009, 2010, 2000, attendez, euh, non, je crois que c'est Julien de Normandie, en 2018, donc peu après l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, donnait déjà ce chiffre, disant déjà exactement la même chose, qu'il fallait faire partir ces personnes pour les remplacer par des familles plus nécessiteuses qui avaient des revenus inférieurs, etc. Donc c'est en plus, au sein même du gouvernement, c'est vraiment pas la première fois qu'on en parle. C'est un petit peu facile, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait depuis qu'ils sont au pouvoir sur ce sujet-là, et puis on remet une pièce dans la machine. Donc, parce que concrètement, quelles sont les solutions qu'il apporte, c'est pas très clair quand même.
Véronique Ressoul, juste dites-nous comment ça réagit autour de tout ça.
Déjà, le logement, c'est un sujet extrêmement important pour les Français. C'est d'ailleurs le seul ministère qui avait été réclamé par les Français quand il y a eu le remaniement.
Qui manquait dans le premier.
Il le réclamait à corps et à cri. En particulier parce que c'est un sujet de pouvoir d'achat et que c'est la première dépense des Français. Donc c'est un sujet éminemment important. Après, l'avantage d'annoncer quelque chose qui existe déjà, c'est que ça permet de rappeler que ça existe. Mais surtout, ça ouvre le débat. Et donc, il y avait effectivement les personnes âgées, les personnes handicapées, enfin âgées. De plus de 65 ans, les personnes handicapées. Eh bien, il y a beaucoup de demandes aussi, de gens qui disent, et pourquoi est-ce que on n'a pas quelque chose qui protège les familles monoparentales? On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Ce sont des familles en grande précarité et pour qui c'est compliqué de se loger. Donc, on voit bien que, en relançant un sujet, vous ouvrez sur d'autres débats. Et après, il y avait deux autres sujets qui étaient très commentés aujourd'hui. Le premier, c'est que, ceux qui doivent sortir, c'est pas parce que vous avez un peu augmenté votre niveau de vie que vous êtes capable d'accéder au logement. Parce que les logements sont extrêmement chers et que c'est entre 15 et 20% en dessous des prix du marché, que les conditions pour accéder à l'achat, c'est encore plus compliqué, mais même à la location. Donc, il y a plein de témoignages qui étaient partagés sur des gens qui disaient, moi, mon enfant, il ne peut pas partir parce qu'il n'a pas accès. Donc, on voit bien, c'est compliqué, c'est cher. Et puis ensuite, vous parliez de la construction, mais les internautes, ils ont partagé beaucoup de photos pour dire, et l'état des logements sociaux, en disant, ah oui, mais il y a aussi ce sujet-là, les immeubles sans ascenseur,
pas seulement construire, mais entretenir.
Les gens qui sont handicapés et qui sont coincés en étage et qui peuvent pas utiliser l'ascenseur, donc ils sont enfermés chez eux. Donc bref, en lançant ce sujet, ça lance l'ensemble du sujet logements sociaux, et c'est un sujet qui concerne vraiment les Français.
Et les cas, oui, Marie-Sapel.
Ceci dit, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de turnover dans certains, on pense évidemment à des villes comme Paris, hein, parce que ce sujet-là, des gens qui gagneraient un peu plus, vraiment plus que la moyenne et qui resteraient quand même dans leurs logements sociaux, ça touche surtout des villes, des grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille. C'est pas partout, hein, ce sujet qu'il met sur la table, le ministre. Et je pense par exemple à ces familles qui ont 2-3 enfants, qui ont donc accès à un F4 ou un F5 en logement social. Les enfants grandissent, ils deviennent étudiants, ils partent du logement et malgré tout, le couple ou la veuve ou le veuf reste dans le logement qui est grand, qui est inoccupé, avec des chambres vides. Et ça, c'est vrai que c'est une réalité que l'on retrouve dans
donc
un certain nombre.
Donc ça, c'est pas seulement les revenus qu'il faudrait questionner,
c'est pas
mais
que
c'est
les revenus.
La situation familiale.
Et on a l'impression que ces informations ne sont pas toujours bien recroisées, puisque visiblement, c'est possible de rester dans un logement social tout plus grand et de ne pas et de se sans, alors que normalement, ces données sont censées être recroisées.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
On parle logement social avec Arnaud Bouillin de l'Express, Marie-Estelle Pêche de Marianne et Véronique Reissoul de Backbone Consulting. Je posais la question, problème de contrôle ou passe-droit, Arnaud Bouillin ?
Moi, j'ai le sentiment que les passe-droits, effectivement, il y a une dizaine d'années, on voyait surgir dans l'actualité des noms de personnalités publiques, politiques, élus, qui occupaient des logements sociaux de manière visiblement indue. Les bailleurs, les régies publiques ont quand même fait, me semble-t-il, le ménage et en tout cas adopté des règlements internes qui font que ces histoires de passe-droit...
Ça s'est plutôt calmé.
Oui.
Surtout grâce à la loi de 2009.
J'ai l'impression, oui.
Loi de 2009.
Qui permet effectivement de demander un surloyer aux personnes lorsqu'elles dépassent, quand leur salaire, leur revenu dépasse le plafond initial. Donc ça permet quand même même de réguler un peu tout ça. Et puis c'est plus sérieux. Il y a l'histoire du piston politique, etc. pour l'attribution des HLM. Je dis pas que c'est fini, mais on a quand même l'impression que ça s'est un peu, effectivement, un peu plus régulé. On se souvient quand même de l'époque Tibéri, etc. à Paris. Enfin, c'était quand même incroyable.
Non, mais au-delà des cas emblématiques dont on a beaucoup parlé, il y a après, les logements un petit peu intermédiaires qui font partie des logements sociaux.
Et ça, je voulais justement revenir dessus.
C'est vrai dans une volonté
de mixité,
de mixité sociale qui est à peu près admise partout.
Dans une réalité économique aussi, les bailleurs, s'ils ne renvoient pas les locataires au-dessus des ressources, c'est aussi parce qu'ils payent plus facilement leur loyer. Vous avez des mauvais payeurs aussi. Plus on est précaire, plus on a des difficultés à payer ses loyers. Les gens qui ont un revenu supérieur, effectivement, ils sont plus fiables aussi d'un point de vue économique. C'est aussi pour ça peut-être qu'on ne les chasse pas aussi facilement. Il y a une question de mixité sociale, de mixité scolaire, etc. C'est-à-dire que si vous ne mettez que des pauvres avec des pauvres dans des HLM, c'est quoi l'école à côté? C'est une petite bombe sociale. Enfin, il faut de la mixité. Ça reste nécessaire.
C'est ce que souligne Emmanuelle Cos, qu'on a entendu tout à l'heure quand elle dit l'État a demandé à ce que ça ne soit pas appliqué. C'est réellement le cas, ça?
À l'évidence de ce qui remonte du côté des bailleurs sociaux, oui, il y a 8000, c'est un vieux chiffre qui date de 2016-2017, mais il y aurait eu 8000 recommandés envoyés par l'ensemble des organismes HLM pour expulser des locataires qui à l'évidence n'étaient plus dans les coulous. C'est très peu par rapport à la masse des 5,2 millions de logements sociaux qui existent aujourd'hui en France.
Et sachant qu'on a 2,6 millions de personnes qui attendent actuellement un logement social. C'est un record, c'est le record toute catégorie cette année.
C'est le point central du débat. Il y a un problème entre l'offre disponible et la demande. Le gouvernement essaie d'agir sur l'offre, faute d'avoir pu répondre à la demande. Et en quelque sorte, il cherche à mieux organiser la pénurie. Ce qui est déjà en soi un peu un constat d'impuissance vis-à-vis de ce sujet.
Alors la construction, vous en parliez à l'instant, là, elle était censée être aussi boostée par cette loi SRU dont on parle souvent, cette obligation pour les communes de construire 20 ou 25% de logements sociaux, faute de quoi ils sont sanctionnés. Le bilan a été rendu hier pour 2020-2022. 70% des communes ne respectent pas ça. Ça fait quoi? 240 millions de sanctions qui sont destinées, sont fléchées construction. Donc ça devrait, pour le coup, booster.
C'est vrai, sauf que dans le même temps, vous avez deux phénomènes qui viennent percuter là, cette dynamique de construction. La nécessité pour les bailleurs aujourd'hui de rénover les logements, du fait des nouvelles normes environnementales et thermiques qui s'appliquent sur les appartements. Et puis, dans un second temps, vous avez un contexte macroéconomique qui fait que les bailleurs sociaux, ils sont financés par l'épargne des Français, notamment par les milliards d'euros qui sont versés sur le livret A. C'est la Caisse des dépôts qui leur prête cet argent pour construire des immeubles. Or, aujourd'hui, avec le niveau de taux d'intérêt qu'on connaît, et le fait que le livret A soit à 3%, les bailleurs, ils s'endettent beaucoup, ils s'endettent cher, et ils n'ont plus les mêmes marges de manœuvre pour déployer les plans de construction qu'on a pu connaître les années précédentes, et en même temps, rénover les logements. Donc, et puis vous rajoutez là-dessus l'inflation sur la hausse des matériaux de construction, des coûts de construction, le marché de la construction, mais qui du parc social comme du parc privé, est complètement à l'arrêt aujourd'hui en France.
C'est pour ça que je vous disais que c'est un des sujets de préoccupation majeurs des Français, qu'ils en parlent tout le temps, qu'ils témoignent beaucoup, c'est le marché globalement, il est en tension. Donc il est en tension sur les logements sociaux, d'où les 2,6 millions de personnes qui attendent en 2023, mais globalement sur l'ensemble des sujets du logement, on est en panne et les Français attendent des solutions et sont extrêmement tendus sur le sujet. Et sans parler du fait que les logements sociaux liés, dans des petites villes, il y a aussi souvent des frondes, c'est compliqué à mettre en place. Les uns et les autres disent déjà entretenez le parc qui existe, répondez à la réalité de ce qu'on attend. Donc en fait, c'est un marché compliqué, en tension, et les uns et les autres l'avaient vu venir depuis longtemps, et on a l'impression que là, ça sort maintenant, mais en réalité, ça fait un moment que ça montait.
Alors précisément, il y a manifestement une volonté de désengorger et de régler cette question de ce secteur. Est-ce que c'est de nature là, il y a une série d'annonces du gouvernement, et notamment cette volonté de faire appliquer la vérification des revenus et de sortir les locataires. Ça, c'est de nature, selon vous, à régler une partie du problème?
À la marge, oui, sans doute, un peu, mais vraiment très marginalement, comme on le disait tout à l'heure.
Dans un contexte économique difficile, elle est où la clé pour vous?
Comment?
Où est la clé pour vous?
La construction. Il faut construire davantage. C'est essentiellement ça, non?
Oui. Il faut construire davantage pour pouvoir répondre à la demande des ménages.
Et pas que dans les logements sociaux. Il faut construire dans le privé, il faut construire dans les logements sociaux, il faut construire partout où on peut construire. En plus, on est dans une société qui a d'autant plus besoin de logements que socialement, le visage des familles a changé. Enfin, vous avez de plus en plus, effectivement, de familles monoparentales, de couples divorcés. Donc, on a encore plus besoin de logement.
C'est pour ça que
c'est exponentiel en réalité.
Dans les critères qui étaient demandés, qu'on voyait là, qui n'existent pas aujourd'hui, qui est le critère d'une famille monoparentale, elle doit être plus protégée. En tout cas, c'est demandé fortement. C'était juste pour vous dire que, bien sûr, l'expression sur les réseaux sociaux ne veut pas dire qu'on sait tout. Mais en règle générale, quand vous avez des choses qui... des éléments qui choquent énormément, bien vous avez toujours des gens qui viennent témoigner et qui pointent et qui disent « Ah oui, je connais à côté quelqu'un qui gagne très bien sa vie, qui est dans un logement social. »
Mais on connaît tous, c'est facile.
Mais on n'en voyait pas tant que ça dans les messages. Les trois quarts des messages qu'on pouvait lire étaient plutôt des messages en disant « Mais moi j'en ai besoin, c'est pas si simple que ça. » Le fait d'avoir été un peu augmenté ou d'avoir eu des heures supplémentaires et avoir un peu mon revenu qui a augmenté, ben on m'a demandé de payer plus, c'est normal. Mais pour autant, je suis pas capable de trouver un logement à côté, donc non, ne me sortez pas ainsi. Donc, en fait, on sent bien que c'est pas un sujet d'injustice pour les Français, même ceux qui ne sont pas dans les logements sociaux. C'est plus un sujet global d'inquiétude qu'est le logement.
Je voudrais qu'on dise juste un mot, Arnaud Bouillain, d'une des propositions qui est faite par le gouvernement. Qui est d'inclure dans ces fameux calculs de la loi SRU, de ces logements sociaux, des logements un peu intermédiaires, et on retrouve la patte de Gabriel Attal et les classes moyennes auxquelles il est tant attaché. Essayons d'expliquer simplement ce que ça peut changer dans l'équilibre financier et pourquoi pas pour régler ce problème de ce secteur en tension du logement social.
Alors, je ne sais pas si ça le réglera. En tout cas, effectivement, il y a la volonté qui a été affirmée par Gabriel Attal et qui est reprise par le ministre Guillaume Kasbarian, de permettre à des Français situés dans la classe moyenne de pouvoir se porter candidat à des logements dans le parc social, mais avec évidemment des niveaux de plafond de ressources différents. Est-ce que ça...
Et surtout, pardon, je vous coupe, mais que les communes puissent faire valoir ces logements-là, intermédiaires, dans le calcul de la loi SRU.
Absolument.
C'est surtout ça, en fait.
C'est la subtilité.
Ce qui fait d'ailleurs hurler pas mal de communes.
C'est la subtilité, c'est de permettre à des communes qui, jusqu'ici, entre guillemets, freinaient des quatre fers pour construire des parcs sociaux et donc accepter de payer les amendes qui sont infligés aux communes qui ne respectent pas la loi, de se dire bien regardez, je prends ma part puisque je construis des logements destinés à cette catégorie de population.
D'accord, c'est une construction. Donc, après, c'est une autre façon de booster une d'autres constructions.
Oui.
C'est aussi un discours qu'on entend souvent, c'est-à-dire qu'il faut penser aux enseignants, aux infirmières, etc., etc. Depuis la crise sanitaire, on entend souvent pour qu'ils aient de la place dans les logements sociaux, qu'ils puissent avoir accès à leur travail, être à proximité de leur travail. C'est un discours un peu qu'on entend très régulièrement, mais qui n'a pas l'air de donner grand-chose pour l'instant.